Canus Info. Tous les deuxièmes lundis du mois, le Canu Info s'organise en mixité choisie, sans mexis, pour parler de l'actualité
avec un regard féministe.
Quoi ? On n'a pas le droit d'y aller, ouin ouin, mais c'est du racisme, c'est de la discrimination de l'homme blanc qui pourtant souffre au quotidien.
Sur Radio Canu,
102.2,
la plus rebelle des radios.
Non,
les plus rebelles de la radio.
C'est que les mecs comprennent que leur place n'était pas là. Dans ce premier temps de lutte pour la libération des femmes, la place des mecs est à la crèche ou en dehors.
C'est nous qui faisons leur richesse. Et aujourd'hui, s'ils sont en cravate, ils marchent avec des voitures de luxe. À un moment, il faut que ça s'arrête, quoi. Si nous-mêmes, les femmes, on ne sort pas du silence pour dire stop, parce que c'est nous qui subissons. On les fait enrichir et nous, on ne gagne rien dans nos poches.
Non, ne me demandez pas, non, de ne pas me battre pour changer tout ça. De ne pas me battre pour changer tout ça.
Bonsoir. Nous sommes le lundi 10 octobre et vous nous écoutez les Canus Info. Et on commence tout de suite avec les titres.
Et oui, alors d'abord, on ira faire un tour du côté de l'université qui est occupée en ce moment même,
avant à l'international de parler de la journée nationale de commémoration pour les femmes et filles autochtones disparues et assassinées au Canada.
Et ensuite, au national, on parlera d'un mouvement de grève dans les crèches, d'une tribune contre la censure.
Et puis au niveau local, on vous parlera de la manif anti-IVG qui a eu lieu dimanche 2 octobre, des initiatives plus larges des chrétiens contre l'IVG, on vous passera un reportage sur les infirmières de Saint-Jean-de-Dieu en grève, et on parlera de la grève à la gare de Perrache.
Et pour finir, on fera un dossier sur la lutte contre les expulsions avec un petit témoignage, ensuite une interview et une rapide présentation du DAL.
Et puis ensuite, là, on commence avec une citation de la semaine.
Et oui, spéciale dédicace à Annie Ernaux qui a reçu le prix Nobel de littérature jeudi 6 octobre dernier et dont nos envolées lyriques préférées restent celles de son interview pour Libé en mars 2022 où elle dénonçait la participation de Yannick Jadot à, je cite, « des rassemblements de policiers factieux devant l'Assemblée nationale » et où elle parlait aussi de notre cher Fabien Roussel qui, je la cite encore, est « communiste, comme moi je suis religieuse ». Big up Annie.
Mais attendez, on m'informe qu'on a une information de dernière minute. Breaking news.
Et oui, on a appris ce matin que la présidence de l'université Lyon 2 était occupée par des étudiants qui réclament à la fois l'inscription des 100 facs ainsi que l'exonération des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Alors, au plus près de l'actu des luttes, on est au téléphone avec Sam de l'UNEF-TACLE en direct de l'occupation. Bonsoir Sam. Alors, vous êtes toujours en occupation. Est-ce que tu peux un peu nous raconter cette journée ?
Oui, bien sûr. Alors, on est entré vers 9h45 et on a tout de suite expliqué à la présidence la raison de notre présence dans ces locaux et pourquoi on en venait à ce moyen-là, qui est l'occupation. En fait, dès la semaine dernière, on a demandé à la présidence une nouvelle commission d'étude des dossiers pour pouvoir trouver des solutions pour toutes les personnes qui n'ont pas trouvé de place à Lyon 2 dans la filière de leur choix, que ce soit en licence ou en master, et aussi pour trouver des solutions pour les personnes qui doivent bénéficier d'une exonération des frais d'inscription parce qu'en fait Lyon 2 applique dès cette année une réforme qui s'appelle Bienvenue en France et qui demande aux étudiants étrangers hors Union européenne qui entrent en licence de payer 2 770 € de frais d'inscription par an. Donc nous, ce qu'on demande à la présidence c'est donc des solutions qui puissent être trouvées.
Et du coup, vous avez été reçu à la suite de votre occupation. Qu'est-ce que vous a répondu la présidence, enfin la présidente en l'occurrence, Nathalie Dontnier?
Alors, on a été reçu à 14h et plusieurs propositions nous ont été faites, mais la dernière en date ne nous convient pas. On a transmis à la présidence différentes choses qu'on souhaitait avant de pouvoir quitter l'occupation. C'est-à-dire des réponses précises sur la question des inscriptions et des exonérations. Et pour l'instant, on n'a que des réponses extrêmement vagues. Par exemple, des réponses qui pourraient concerner seulement les étudiants en master, enfin qui veulent un master et qui ont fait leur licence à Lyon 2, en nous disant que pour le reste, ce serait seulement dans les filières où il reste des places. Et on ne sait même pas dans quelle filière il reste des places. Donc, pour l'instant, c'est beaucoup trop flou et ces réponses ne nous conviennent pas.
Du coup, là, vous avez décidé de maintenir l'occupation. Vous êtes toujours dans les locaux de la présidence de l'université. Qu'est-ce que vous demandez maintenant et comment vous voyez la suite? Est-ce que vous allez rester cette nuit?
Alors oui, on est prêt à rester jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause. Donc, pour l'instant, on souhaite une réponse beaucoup plus précise sur la question des inscriptions. Voilà. Malgré une proposition de commission d'étude des dossiers, on n'a pas d'attestation que des sans-fac pourraient être inscrits lors de cette commission. Et nous, on ne veut pas juste une réunion dans le vent. On veut une réunion qui permette de débloquer des situations. Et tant qu'on n'a pas de réponse écrite là-dessus, on ne pourra pas garantir quoi que ce soit. Donc voilà.
On se souvient l'an dernier de la mobilisation des sans-fac à Nanterre qui avait duré des semaines et des semaines. Clairement, c'est un mouvement de fond qui traverse l'université depuis le début du processus de Bologne. Et là, c'est les conséquences directes de ces politiques-là. Comment est-ce que vous envisagez la suite au-delà de la question locale et de ce combat directement avec la présidence de Lyon 2 qui applique très rapidement toutes ces mesures?
Alors évidemment, la campagne sans fac, elle est menée par différentes organisations dans différentes villes, que ce soit à Nanterre, à Lille, au Mans, à Grenoble, à Montpellier. Et évidemment qu'on espère que chaque année, il y aura de plus en plus de personnes qui s'engagent à mener cette campagne dans leur université, parce que pour nous, effectivement, le problème est général, c'est le manque de moyens à l'université, etc. Donc voilà, on envisage évidemment de poursuivre cette campagne sans fac pour les années prochaines. Tant que la sélection existera à l'université, on la combattra et on va rien lâcher. Et là, on demande simplement à la présidence de notre université de prendre ses responsabilités par rapport à ça.
Et du coup, là, est-ce qu'on peut donner rendez-vous aux étudiants pour vous rejoindre tout de suite à Lyon 2 pour passer ce qui vous reste de temps de négociation sur place avec vous? Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous à venir dans la semaine?
Bien sûr, alors il y aura sans doute d'autres rendez-vous qu'on va fixer. Pour l'instant, il y a un rassemblement de soutien qui est en cours. Alors, on est situé dans la cour du campus des Quais, devant le bâtiment Bélénos, où se trouvent les bureaux de la présidence. Et bien sûr, si des personnes souhaitent nous rejoindre pour soutenir l'occupation, n'hésitez pas. La porte est ouverte. On l'a ouverte. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre.
Eh bien, bravo à vous et bon courage. Et on espère que vous obtiendrez satisfaction pour l'exonération des étudiants étrangers et l'inscription des sans-fac de Lyon 2. Bon courage pour la lutte et on prendra de vos nouvelles dans les semaines qui viennent.
Voilà, merci beaucoup à vous.
Au revoir. Après cette interruption de Flash Info, on va reprendre le cours normal de nos programmes. On va passer à la rubrique internationale avec un sujet sur la journée nationale de commémoration pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées au Canada.
Voilà, donc le 4 octobre au Canada, c'était la journée nationale de commémoration pour les femmes et filles autochtones disparues et assassinées. Au Canada, les meurtres et disparitions des femmes de peuples autochtones, donc les Premières Nations, les Inuits et les Métis, sont un vrai fléau et concernent plus de 1000 personnes. Des femmes et des filles disparaissent, des corps sont retrouvés dans les rivières et ne sont jamais recherchés, car les enquêtes de police ne sont jamais aussi abouties que lorsque c'est pour une femme blanche. Cette situation est une des conséquences du colonialisme, du racisme et du sexisme. De nombreux rassemblements ont eu lieu dans les villes canadiennes et les familles demandent des réponses, veulent retrouver leurs filles, amies et sœurs, que les services de police trouvent les meurtriers et que les gouvernements s'engagent contre le racisme systémique.
Ok, on enchaîne tout de suite avec le national. On n'a pas encore de jingle, mais ça viendra. On passe au mouvement de grève dans les crèches.
Oui, jeudi 6 octobre dernier, il y avait des milliers de professionnels de la petite enfance qui étaient en grève et dans les rues dans plus de 60 villes en France sous le mot d'ordre « pas de bébé à la consigne » ou encore « contre la grande braderie des modes d'accueil ». Il y avait 5000 personnes dans les rues à Paris, mais aussi des rassemblements à Nantes, Lyon, Rennes, Nice, Bayonne, Limoges, Tours, Strasbourg, Mulhouse et j'en passe. 42 crèches sur 59 étaient fermées à Marseille, 34 sur 40 à Bordeaux, 6 sur 6 à Charleville-Mézières, où il n'y a pas beaucoup de crèches, et ou à Dieppe. Et c'était une mobilisation d'une ampleur inédite dans le secteur depuis plus de 10 ans, puisque le mouvement « Pas de bébé à la consigne », en fait, il existe depuis une première pétition qui date de septembre 2009, mais il a pris une ampleur sans précédent ces deux dernières années. Les professionnels de la petite enfance exigent donc des mesures immédiates contre la pénurie de professionnels qualifiés. et notamment se mobilisent contre l'arrêté du 29 juillet 2022 qui autorise plus largement et qui donc incite les structures à recruter des professionnels sans qualification ni expérience auprès des jeunes enfants. Donc pour les professionnels de la petite enfance, cet arrêté est une véritable offensive contre la reconnaissance de leurs qualifications et mettra en difficulté les diplômés comme les non-diplômés. Et au lieu d'ouvrir le recrutement aux non-diplômés, ils demandent plutôt l'augmentation immédiate et massive de places en centre de formation et bien sûr des revalorisations salariales au moins équivalentes aux 183 euros du Ségur des personnels soignants qui a ensuite été conquis par les travailleurs et travailleuses sociaux, je le rappelle. Les professionnels de la petite enfance se mobilisent aussi contre le taux d'encadrement imposé par la réforme de 2021 sur les modes d'accueil qui veut qu'on passe à un taux de 1 adulte pour 6 enfants. Et donc, le mouvement Pas de bébé à la consigne pour une qualité d'accueil garantie demande un professionnel pour 5 enfants seulement et une surface de 7 mètres carrés minimum par enfant en crèche. Et ils se mobilisent aussi pour les parents puisqu'ils demandent l'alignement du coût restant aux familles sur la base du quotient familial, quel que soit le mode d'accueil. Il y a, donc ça c'est les mots d'ordre du mouvement national, vous pouvez suivre le site internet où il y a toutes les tracts et les dates de mobilisation. Et puis il y a bien sûr plusieurs syndicats qui ont posé des préavis de grève et la CGT et Solidaires demandent aussi, et la CNTSO demande aussi, se mobilise aussi pour un véritable service public de la petite enfance qu'ils considèrent comme seule alternative à la marchandisation du secteur. Donc, on rappelle d'ailleurs que les personnels de la petite enfance, c'est 96% à 98% de femmes dans les crèches et 90% de femmes en maternelle qui gagnent entre le SMIC et maximum 1500 euros net par mois. Et on souhaite donc beaucoup de courage et longue vie à cette mobilisation pour des personnels de la petite enfance.
On enchaîne toujours au national avec une tribune contre la censure.
Patrick Drahi ne nous fera pas taire et l'appel lancé aujourd'hui par le Fonds pour une presse libre, FPL, qui a déjà recueilli 74 signatures de médias, de plusieurs syndicats de journalistes et d'organisations de presse, dont la Fédération européenne des journalistes. Il signe contre la censure du média Reflet Info, qui est interdit de publier des informations sur le groupe Altice, propriété du milliardaire Drahi au nom du secret des affaires. Reflet et la Fédération européenne des journalistes invitent les journalistes à titre personnel, les sociétés de journalistes et les médias qui ne seraient pas encore signataires à les rejoindre. C'est quoi cette affaire alors ? Dans une décision rendue le 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné le média indépendant d'investigation Reflet Info, qui est spécialisé dans des enquêtes sur le numérique, des données open source et des leaks, a versé 4500 euros au groupe de Patrick Drahi. Avec des frais d'avocat, ça leur fait 10 000 euros sur un chiffre d'affaires de 40 000, donc c'est un quart de leur chiffre d'affaires. Comme le rappelle cette tribune, le tribunal de commerce de Nanterre vient de violer la loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui proclame en son article 1 « L'imprimerie et la librairie sont libres ». Et surtout, on se croirait dans « Minority Report », ce film inspiré des nouvelles et romans de Philippe K. Dick, car le tribunal ordonne de ne pas publier sur le site de son journal en ligne de nouvelles informations sur Altice, qui, rappelons-le, est entre autres propriétaire de SFR France, L'Express, BFM TV, RMC. Le tribunal de commerce installe ainsi une censure a priori d'articles, même pas publiés. Le groupe Altice a poursuivi Reflet Info pour une série d'articles réalisés à partir d'informations issues d'une fuite de plusieurs centaines de milliers de documents internes au groupe qui ont été mis en ligne sur le web au mois d'août. Donc c'était le groupe Hive qui a hacké ces documents et les a mis à disposition. On y découvre entre autres le train de vie de Patrick Drahi et de sa famille, dont l'usage immodéré de jets privés, les achats faramineux d'œuvres d'art, alors que l'on nous répète que c'est la fin de l'abondance et le temps de la sobriété. Altice estime qu'il s'agit d'une violation du secret des affaires, comme nos collègues précisent, les collègues de Reflet, qu'il ne s'agit là que d'informations d'intérêt général. Rappelons que la décision liberticide du tribunal de commerce de Nanterre s'appuie sur la loi de 2018 qui protège le secret des affaires, qui a été défendue par Emmanuel Macron, malgré les critiques de toutes les organisations, syndicats, de journalistes et de la presse indépendante. Le plus fou dans cette histoire, c'est que le tribunal juge que s'il n'y a pas de violation du secret des affaires avec les articles qui ont été publiés, celle-ci pourrait survenir si les publications se poursuivaient. Et face à ce danger imminent, la censure préalable est donc décidée et l'interdiction de publier est dictée. Donc, Refnet Info annonce qu'ils feront appel. C'est toute l'investigation économique qui pourrait disparaître. Comment on va informer sur les Panama Papers, les LuxLeaks, les Malta Files, les Uber Files, donc tous ces scandales d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent. Donc, ce procès Bayon ruine le principe démocratique d'une presse libre, indépendante, rappelle cette tribune. C'est une nouvelle attaque contre le journalisme après les atteintes répétées au secret des sources et la loi séparatisme. Donc, solidarité avec les camarades de Reflet Info.
On va faire une petite pause musicale. On va écouter la rappeuse Mauve qui va chanter « Désastre ».
L'étiquette, souris, j'ai la flemme. C'est quoi ces normes infâmes? J'ai perdu mon flegme. Nous sommes les Danes et les Kidam ou les Kidanes. C'est monsieur, c'est madame. Des rôles qui condamnent. Levons nos doigts, voilà l'occasion pour faire entendre les moins loquaces. Vida loca, comme chien de la casse. Parce qu'on ne rentre pas dans vos cases. Sortir de l'impasse, foutez-nous la passe. Brisons l'opacité, faites place. Entités de l'ombre, identités qui ne se dénombrent, étoiles filantes dans la pénombre, libre de choisir leur prénom, de choisir leur pronom. Unique et rare, des êtres à part, penses-tu que je rappe par hasard? Je souhaite qu'on brille dans le blizzard. High kick dans le bazar, que se répande le bizarre. Que se répande le bizarre. Dans ce désastre, c'est la danse des astres. La mère patrine, ville bergère, que des moutons et ne vénère. Trop d'oppression ils génèrent, la peur les morts qui fédèrent. Souvent besoin de changer d'air. Ce sont d'infantiliser, on veut nous utiliser. Nous gâte de tranquillisant, besoin de fertilisant. Toutes les remarques à enquiller, parce que j'aime me maquiller. J'aimerais pouvoir m'habiller sans les écouter m'habiller. Bla 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 bla, faut déjà oser. Ce n'est pas aisé sans stresser, sans choper la nausée, la crainte de finir adossé, cabossé sur la chaussée. Un sourire forcé, tous ces gens qui abusent. Je mâche mes doutes dans ma caboche, puis cache mes boucles dans ma capuche. Le cul entre deux chaises, est-ce que t'as capiche?
Vous êtes toujours sur Radio Canus 102.2, vous écoutez les Canus Info, le Canus Info en mixité choisie du lundi, deuxième lundi de chaque mois.
Et on vient d'écouter Mauve, Désastre du rap Transfemme découvert samedi dernier à GZ.
Et on enchaîne au local pour parler de la manif anti-IVG de dimanche, du dimanche 2 octobre.
2 octobre, et bien oui, parce que comme c'est un canut qui n'a lieu que tous les deuxièmes lundis du mois, on n'a pas pu vous en parler le mois dernier pour aller à la contre-manifestation. On a quand même envie de vous en parler parce que ça fait bien peur et qu'on pourra bien se mobiliser par la suite. Et oui, le dimanche 2 octobre, c'était les anti-IVG qui étaient dans la rue et qui tentaient de se remobiliser. Alors d'après les organisateurs de cette même manif, c'était 500 personnes qui étaient à cette manif anti-IVG le 2 octobre. Il faut quand même savoir que chaque année, depuis au moins 2008, des marches contre l'avortement sont organisées à Lyon. Ce n'est pas la première qui a lieu. La dernière marche anti-IVG qui avait fait un peu parler d'elle, c'était en 2012. Ça remonte un peu parce qu'il y a eu le soutien du cardinal Barbarin. Et depuis 2013, ces marches sont organisées par l'association J'aime la vie. D'habitude, le dernier dimanche de novembre. Alors l'année dernière, faute d'organisateurs, on n'avait pas vu de manifestants anti-IVG, c'était pas plus mal dans les rues de Lyon. Mais cette année, c'est une nouvelle équipe qui tente de réactiver la mobilisation avant la grande marche pour la vie qui aura lieu le 21 janvier prochain à Paris. Alors faut quand même savoir que ces marches, elles sont particulières. Hein. En tête de cortège, on voit quoi ? On voit une vierge, c'est des enfants qui tenaient la banderole, on pouvait lire IVG, : le droit de dire la vérité. Et depuis un an, en fait, c'est une nouvelle équipe qui a pris la direction de J'aime la vie et qui tente donc de relancer ces marches. Donc pour un peu vous situer dans cette galaxie des gens qui s'appellent les pro-vie, c'est le job de ces militants qui se présentent comme catholiques, qui utilisent vachement le catholicisme pour justifier leur organisation de manifestations. Le fondateur, c'est l'un des représentants du Parti chrétien démocrate qui a été fondé par Christine Boutin. Il s'appelle Marc-Yvan Tessier et on peut quand même préciser qu'il a été condamné il y a un an pour ses tweets homophobes. Donc les membres de J'aime la vie, on peut dire que c'est une vingtaine de personnes qui sont en toute logique soutenues par les autres mouvements vie et qui tenaient des stands Place Saint-Jean, donc ça veut dire dans le Vieux-Lyon. On pouvait retrouver notamment la Fédération des associations familiales catholiques, le Réseau Vie ou l'Alliance Vita. On peut noter qu'il y avait quelques prêtres en soutane à cette manif et que par contre, ils attendaient quand même plus de monde, même si moi ça me paraît beaucoup, plus de 500 personnes dans ces manifs-là. Évidemment, la manif, elle était où ? Elle était dans le Vieux-Lyon, elle était encadrée par l'extrême droite, qui était bien visible. Le service d'ordre était en partie composé de membres de la section lyonnaise de l'Action française. Il y avait deux conseillères régionales FN, Agnès Marion et Isabelle Surplis, qui ont fait le déplacement. On pouvait aussi voir donc dans cette manif d'autres membres du Parti chrétien démocrate, dont le délégué départemental Olivier Pira. Heureusement, les copains et les copines n'y sont pas restés sans rien faire. Il y a eu un contre-rassemblement qui a eu une centaine de personnes qui y sont allées. Le contre-rassemblement, il était organisé à la fois par des personnes antifascistes et par des groupes féministes. Il a été extrêmement vite réprimé par les flics et a eu des sommations, du gazage. Le rassemblement, il rappelait que les idées d'extrême droite n'ont aucune place dans nos rues, que l'extrême droite, comme les flics qui les protègent, représentent un danger potentiel physique pour ces manifestants. La manif, elle a quand même réussi, enfin la contre-manif a quand même réussi à obliger la manif officielle à changer de parcours. On rappelle que du coup, toutes ces mobilisations, elles s'inscrivent sur un fond de débat sur la fin de vie, sur la volonté de constitutionnaliser le droit à l'IVG. On voit aussi, par exemple, quand on prend l'exemple des États-Unis, le lien fort entre la montée et l'institutionnalisation du fascisme et les luttes contre le droit des femmes. Et donc, en tout cas, on vous invite à suivre ces mobilisations, à appuyer les convergences entre les luttes féministes et les luttes antifascistes.
Et alors, contre l'IVG, il n'y a pas eu que des manifs, apparemment.
Et donc, oui, ça s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large, comme le rappelait Martha. Là, je voulais vous parler de l'Espagne et donc de ce mouvement catholique 40 jours pour la vie, 40 días por la vida, qui est un mouvement qui est né au Texas en 2007 et qui est arrivé en Espagne en 2016 et a commencé à Madrid en 2019. Ce mouvement anti-avortement est de retour, donc, avec des prières de rue devant des centres d'IVG dans le monde. Et depuis le 28 septembre, donc la journée de lutte pour le droit d'avortement, des groupes de prières et de jeûnes, donc qui ne mangent qu'un repas par jour, sont de retour devant des centres d'avortement de 20 villes espagnoles et plus de 700 villes dans le monde. Les volontaires se limitent strictement à la prière dans la voie publique. Et ils s'engagent sur les sites internet, donc ils signent des déclarations de paix, où ils s'engagent à donc seulement prier, à ne pas s'adresser aux personnes qui vont aller dans les cliniques, ni au personnel. Les avocats les ont bien conseillés. Ils s'engagent à ne pas être violents, à ne pas avoir des contacts physiques. Et donc, tous ces volontaires restent de 8h à 20h devant les centres d'IVG, donc pour avoir une présence ininterrompue avec leurs prières de rue. Donc les volontaires restent pendant une heure et donc ça tourne. Et donc la seule chose qu'on peut dire à ces volontaires dans les 700 villes et les 60 pays et dans le monde entier, c'est Cato, laissez-nous tranquilles et rien à faire de vos rosaires dans nos ovaires.
Allez, après ce petit crochet à l'international, on repasse au local avec un reportage.
Oui, jeudi dernier, le 6 octobre, plus de 200 personnes s'étaient réunies devant l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Une manif pour protester contre la logique de fermeture de lits hospitaliers. Déjà pendant l'été, 25 lits de l'unité Louise Labbé avaient été supprimés et aujourd'hui, ça serait au tour de l'unité Erasme. Ça fait mal, surtout qu'en 2017, la direction prévoyait déjà de, selon ses termes, transformer l'unité. Alors heureusement, il y avait eu une forte mobilisation de l'équipe et du médecin-chef. Ça avait permis de stopper cette tentative-là. En juin dernier, nouveau coup de force de la direction qui propose à l'équipe d'Erasme de réfléchir à une proposition de réorganisation du service. Donc l'équipe se réunit, taf et propose pour un refus de la direction qui annonce une fermeture sèche des 25 lits de l'unité et sa transformation en hôpital de jour. Ça fait mal. Donc on propose d'écouter le reportage qui a un maigre aperçu d'un secteur hospitalier qui est en train de crever.
Je viens là pour montrer qu'on est en colère contre ce qui se passe parce que les décisions sont faites sans nous. Moi, je suis infirmière à l'unité Erasme, du coup, qui est fermée. En fait, Erasme, c'est une unité de soins institutionnels. C'était un peu une autre forme de soins un peu différente que ce qu'on peut trouver ailleurs. On travaillait beaucoup sur les groupes à médiation thérapeutique. On fait du photocollage, on fait beaucoup d'art plastique, on fait des groupes de parole aussi. On fait des groupes où on sort pour faire des activités, vraiment de, enfin, aller au cinéma, aller au bowling, aller faire une journée au lac. Enfin, pour nos patients, on ne peut plus bénéficier de ces soins-là.
Je suis infirmière à Erasme depuis 2001. J'ai des collègues qui ont à peu près la même ancienneté, d'autres collègues plus jeunes qui nous ont rejoints il y a quelques années. On a appris à travailler ensemble, à se développer, à se former. Et toute cette richesse va disparaître si on ne nous permet pas d'y rester avec la direction qu'on a souhaitée pour notre service.
La direction se justifie par un manque de médecins. C'est vrai que l'unité Erasme n'a pas de médecin fixe et permanent depuis 3 ans. Elle fonctionne uniquement avec des intérimaires et avec un ancien médecin-chef, mais qui est parti. Et du coup, ce que je pense, c'est que le médecin-chef étant parti, ils en profitent pour fermer l'unité. Voilà.
Vous travaillez au sein de l'unité Erasme ?
Alors, je n'y travaille pas. J'y ai travaillé pendant 12 ans. Je l'ai quitté en 2017. Mais je travaille toujours sur le secteur, je suis maintenant au CMP de Vénissieux. Donc quand on a besoin d'hospitaliser un patient, on a affaire à l'unité Erasme. Donc déjà, quand on veut faire hospitaliser un patient aujourd'hui, il n'y a pas de lit, on n'y arrive pas, donc on y arrivera encore moins. Ils appellent ça le virage ambulatoire, c'est-à-dire s'occuper plutôt des patients à l'extérieur de l'hôpital et plus à l'intérieur, ce qui, je pense, pourrait être intéressant, sauf qu'il n'y a aucun moyen sur l'extra-hospitalier. Actuellement, sur le CMP où je travaille, nous avons l'équivalent d'un médecin temps plein pour une file active de quasiment 1000 patients. Un seul psychiatre pour une file active de 1000 patients.
On a une pression qui est de plus en plus grande pour que on puisse faire sortir les patients d'hospitalisation le plus rapidement possible, avec des collègues qui ne sont pas remplacés, donc beaucoup de remplacements et des problèmes sociaux qui augmentent. Ça, on peut le voir dans la population générale, mais particulièrement pour les personnes que nous, on accueille en psychiatrie. Un manque de moyens criant au niveau du sanitaire, du médico-social et du social. Alors moi, je suis assistante sociale dans une unité d'hospitalisation adulte. Au quotidien, on est auprès des patients, on les accompagne pour justement permettre qu'ils puissent vivre avec leur maladie, que c'est le moins d'impact en tout cas sur tous les plans de la vie sociale. Et voilà.
On nous demande d'être rentable dans les soins en psychiatrie, mais non, enfin, je veux dire, on nous demande de calculer le temps qu'on passe en entretien, en visite à domicile avec un patient. Ça peut durer de zéro parce qu'il ne va pas nous ouvrir à une heure et demie parce que il nous menace de se suicider et qu'il faut prendre le temps. Donc non, moi je ne fais pas des statistiques sur la santé psychique des gens. Enfin voilà.
Faire du soin,
sans moyens,
c'est la misère,
c'est la galère,
pour les soignants,
pour les patients,
On devient fou.
On devient fou.
Ils détruisent tout.
Ils détruisent tout.
Nous venons d'écouter un témoignage des infirmières grévistes de l'hôpital de Saint-Jean-de-Dieu. Et on enchaîne avec une autre grève.
Mais tout à fait, oui, un peu plus d'un an après leur victoire, les travailleurs et travailleuses du nettoyage de la gare de Perrache étaient de nouveau en grève aujourd'hui. Alors rappelez-vous, ils et elles s'étaient déjà mis en grève le 8 juin 2021 pour demander le retrait du site d'un agent de la métropole qui les harcelait. Alors comme souvent, la métro, elle a choisi de sous-traiter le nettoyage de la gare à une société privée, la société Arc-en-Ciel. Et donc l'an dernier, après 11 jours de grève, les salariés avaient obtenu satisfaction et donc le retrait du site de leur harceleur. Alors visiblement, la métro ne goûte guère cette défaite puisqu'il contre-attaque en tentant de virer les anciens grévistes. Mais alors comment, me direz-vous, hein, puisque la Convention de la propreté prévoit qu'en cas de reprise de contrat de sous-traitance par une autre boîte, les salariés, eux, sont maintenus en poste. En gros, on change la boîte, mais pas les travailleurs et travailleuses. C'est parce qu'il y a énormément de changements de contrat pour les sociétés de sous-traitance, et particulièrement dans le nettoyage. Sauf qu'au moment de dégainer le nouvel appel d'offres, la métropole a décidé de le destiner uniquement aux entreprises d'insertion. Alors, c'est une jolie manœuvre pour mettre sur la touche les anciens grévistes, parmi lesquels certains sont en poste depuis plus de 20 ans. En fait, la métro, elle instrumentalise le droit au travail des personnes en insertion pour se débarrasser de cette équipe un peu trop déter à son goût. C'est la honte pour la métro, mais une belle réponse de la part des salariés, puisque 100% d'entre elles et eux étaient en grève ce matin. Ils et elles ont donc obtenu un rendez-vous à la métro ce mercredi. On espère qu'ils vont obtenir satisfaction. On les soutient et leur souhaite bon courage. Et surtout, on vous invite à contribuer à leur cagnotte en ligne sur papayou-solidarité.com. Vous tapez gare routière de Perrache, agent en grève, pour retrouver la cagnotte. Et on vous laissera le lien, évidemment, sur le blog des Canu Info.
Deuxième pause musicale de la soirée. On écoute Pas de futur de Candice.
Entrée du
C'est les Canus Infos sous Radio Canus 102.2 et nous on continue avec notre dossier.
Et oui, c'est bientôt le début de la trêve hivernale, soit le 31 octobre. Qu'est-ce que c'est la trêve hivernale ? C'est une période de suspension des expulsions, mais attention, pas des procédures. C'est aussi une période où il n'est plus possible de couper les fluides, c'est-à-dire l'eau et l'électricité. Et cette période dure jusqu'au 31 mars. À cette occasion, on vous propose un dossier sur la lutte contre les expulsions. On va donc commencer par diffuser un témoignage d'une personne qui craint une expulsion et qui a été rencontrée par le DAL. Puis on présentera rapidement cette association. Et pour finir, on recevra une professionnelle de l'ALPIL qui travaille à la permanence appel.
Alors on allait rencontrer Natchiata dans son appartement au mois de juin. Elle avait contacté le DAL suite à un tractage dans les immeubles de la Sagvel parce qu'on avait eu connaissance d'au moins deux expulsions dans les mois précédents. Deux expulsions qui se sont passées de manière très violente. Avec sa famille, elle craint une expulsion locative parce qu'elle ne parvient plus à payer son loyer. On va écouter son témoignage.
Bonjour, je m'appelle Madame Infoaya, j'habite au 46 rue de Chambert, à Lyon 5e. Je suis locataire chez Sagvel. Depuis 2017, on était obligé de partir un peu dans le privé pour trouver un appartement plus grand pour accueillir des enfants qui arrivaient de l'étranger. Parce que le logement social qu'on avait était trop petit et du coup le préfet a refusé d'accorder un regroupement familial. Voilà. Parce que les bailleurs sociaux, ils ne voulaient pas nous donner plus grand parce que les enfants, ils n'étaient pas là. Et du coup, on a trouvé... On savait que l'appartement était trop cher, mais on n'avait pas d'autre choix. Donc on s'est dit, quand les enfants ils seront là, peut-être les bailleurs sociaux ils vont nous donner un plus grand. Sauf que maintenant qu'ils sont là, tout le monde refuse de nous donner parce qu'on n'est pas prioritaire. Donc voilà. Au départ, notre loyer, il était à 900, plus les charges, on arrivait à 1200 euros. Mais là, actuellement, on dirait tout a augmenté, on arrive à peu près dans les 1300. Dans les temps à venir, en fait, je crains que si on continue dans cette situation, je pense qu'on sera expulsé, enfin, comme d'autres familles, hein, parce que j'ai déjà entendu dans la résidence qu'il y a des gens qui ont été expulsés. Bon. On a une demande de logement social depuis 2014. Il faut savoir que, en fait, on a fait toutes les démarches qu'il faut pour accéder à un logement social, mais il n'y a rien qui bouge. Parce qu'à chaque fois qu'on va quelque part, on nous dit, nous, on ne peut rien faire, vous avez tout ce qu'il fallait faire, il faut attendre. Donc, je ne sais pas, on va attendre jusqu'à quand. Chez Sagvel, ils nous ont proposé un logement, mais en fait, l'appartement était tellement petit, c'est vrai que c'était un T5, mais au niveau des mètres carrés, on était à 66 mètres carrés. Donc, les chambres, c'était des placards, et en plus, dans cet appartement, il y avait de la moisissure. J'ai contacté mon assistant social aussi, pour dire qu'on ne peut pas payer le loyer. Mais en fait, tout ce qu'elle a trouvé à nous dire, il faut essayer de payer le peu que vous pouvez. Sans même nous trouver des solutions, nous dire, est-ce que vous allez manger, vous avez des enfants? Il ne nous a rien proposé. Elle m'a juste dit ça, et puis elle m'a dit que, si un logement social est attribué, il doit y avoir des critères, des priorités, machin. Je lui ai dit, expliquez-moi, c'est quoi les priorités? Parce que moi, ça fait depuis 2014 que j'ai une demande de logement social, mais là, elle n'a pas répondu. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas c'est quoi leur critère de priorisation. Je n'ai aucune idée. Nous, les grandes familles, on se sent exclus, en fait. Faites pas d'enfants. C'est ça. En fait, c'est comme si on rentre dans notre vie privée. Donc, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. C'est ça. En gros, faites un, deux enfants et puis c'est tout. C'est ça. Et moi, le choix est vite fait. C'est mieux que j'arrête de travailler parce que ça ne sert à rien. J'avais repris. C'est vrai que je n'étais pas à temps plein. Je gagnais à peu près 1000 euros. Mais mon mari, il était à 1600 euros. Et du coup, on perdait l'APL. Parce que je travaille et sachant que je dois payer les factures de la crèche, les factures de la garderie pour faire garder les enfants, la cantine et tout ça. Déjà, je ne vois pas assez mes enfants et je dois encore payer des factures en plus. En fait, je me pose la question, je travaille pour quoi en fait ? On ne pourra jamais nous payer des vacances, même une semaine en fait. Je dis, mais ça ne sert à rien, ça n'a aucun sens d'aller travailler, se tuer au travail et voilà. Et on ne sait pas les enfants comment ils grandissent. Donc j'ai fait le choix de ne pas retourner travailler. Mais moi, je ne me vois pas aller travailler pour perdre de l'argent, non. Mais à cette époque, quand je travaillais, ça veut dire que c'est une double journée que moi j'enchaîne parce que je récupère les enfants. Il faut faire à manger, tout ça. Je suis épuisée. Quand mon mari rentre du travail, les enfants ils sont déjà au lit. Donc parce que c'est vrai qu'on finit par se décourager, par baisser les mains. Puisqu'on tape des portes, on a tout le temps, on va dire, des portes qui sont claquées sur nous, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, je ne peux pas lâcher comme ça, même si eux, ils me ferment des portes. Parce que si on reste comme ça, ça veut dire qu'on est content de notre situation. Et la situation va empirer. Je pense que pour l'instant, je n'ai pas d'autre choix. Je vais essayer de me battre, rien que pour mes enfants. Voilà.
On remercie Natchata et on voit bien dans son témoignage le coût financier du logement, les problèmes d'accès au logement social et la nécessité de reconnaître le travail domestique et parental comme un vrai travail. On lui envoie tout plein de courage. On voulait aussi dire que le conseil d'administration de la SACVEL est notamment composé de représentants et représentantes de la ville de Lyon. Donc expulser des locataires, c'est aussi des choix politiques. Et d'ailleurs, pour lutter contre ça, il y a le DAL, le collectif et association Droit au logement 69.
Oui, donc le DAL, c'est une fédération nationale qui lutte sur les questions de logement et de mal-logement depuis de nombreuses années, avec des branches locales. À Lyon, ça fait quelques mois que le DAL s'est créé pour lutter justement sur les problématiques de mal-logement sous toutes ses formes. Et le DAL est organisé autour de deux dimensions. D'une part, lors des permanences d'entraide qui se tiennent les mercredis de 16h30 à 19h au local du Jusqu'ici, au 169 Grande Rue de la Guillotière, dans le 3e. Et l'idée avec ces moments, c'est de rencontrer les personnes, de donner des coups de main administratifs et d'orienter vers les institutions, associations, en fonction des situations. La seconde dimension renvoie plutôt à l'organisation de la lutte collective, c'est-à-dire la tentative de construire un rapport de force face au pouvoir public, bailleurs, etc., quand on rencontre des situations similaires et aussi en soutien à des collectifs déjà existants. À ces occasions, on organise donc des assemblées des mal-logés pour justement organiser cette lutte collective. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans la lutte ou si vous rencontrez des problèmes avec votre logement. Et donc, avec le DAL, on a rencontré une professionnelle de l'ALPIL qui travaille à la permanence appel et qui est venue discuter avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que tu peux nous présenter la permanence appel, du coup, et les missions ?
Oui. Bonsoir à tous. Donc, la permanence appel, c'est l'action permanente de prévention des expulsions locatives. Voilà, donc c'est une permanence d'accès aux droits qui a lieu de manière hebdomadaire à Lyon et Villeurbanne. Donc tous les jeudis matins, de 9h30 à 11h30, sans rendez-vous, gratuitement, voilà, au sein du tribunal de Villeurbanne, et le vendredi matin, même horaire, mais cette fois-ci au tribunal judiciaire de Lyon. Donc l'idée, c'est vraiment d'informer les personnes sur, alors oui, leurs obligations, mais aussi leurs droits, et souvent, il y a véritablement un déficit d'information. Voilà. Et donc les personnes sont accueillies, en tout cas on les accueille à trois. Alors ça peut paraître impressionnant, mais justement on se complète complètement. Donc il y a un avocat qui est présent et spécialiste sur les questions de rapport locatif. Et voilà. Ensuite, un travailleur social de la CAF ou de la métropole qui est là pour faire le point sur les droits sociaux, les droits éventuellement non demandés, etc. Qui peut permettre aussi à des moments de faire des rappels d'aide au logement qui ont été suspendus, etc. Et puis un conseiller logement associatif, alors ALPIL, la VDL à Villeurbanne et le CLAGE Lyon aussi pour les moins de 30 ans. Et où là, on conseille les personnes femmes sur l'ensemble des démarches qu'elles peuvent mettre en place. Donc j'insiste vraiment parce que souvent, enfin voilà, c'est la plupart du temps c'est des accidents de parcours. Hein, on perd son emploi, on se sépare, on retrouve pas un logement adapté, etc. Et parce qu'on contracte une dette locative, en fait, on pense qu'on sera, on pourra pas être relogé, etc. Alors que il y a vraiment un ensemble de démarches à faire. Il y a des dispositifs quand même qui existent et qui permettent vraiment, en tout cas, soit de trouver une solution pour, disons, se maintenir dans son logement, lorsque quand même il reste adapté et que c'est juste un accident de parcours, soit de faire en sorte d'être relogé, sans passer par la perte du logement. La perte du logement liée à une procédure d'expulsion qui malheureusement va aller au bout. Voilà. Donc après, on va dire un état des lieux, on n'est pas là pour juger les personnes, absolument pas, c'est vraiment de poser les choses et de conseiller les personnes sur, je dirais presque un plan d'action, parce qu'il y a des démarches des fois qui sont compliquées à mettre en place, compliquées, puis qu'il faut articuler aussi entre elles, et ça c'est pas évident, ça demande voilà, une connaissance quand même, je dirais presque technique. Donc voilà, et de permettre aussi derrière éventuellement d'orienter les personnes, c'est-à-dire que quand c'est trop complexe, on peut soutenir les personnes, je dirais, de manière socio-juridique, en les accompagnant, alors soit en les faisant assister par exemple d'un avocat s'il y a besoin, lorsqu'elles émargent à l'aide juridictionnelle, si c'est pas possible, les aider à préparer l'audience, parce que c'est très court. Voilà, lorsqu'elles sont assignées devant un juge, voilà, et puis d'accompagner les personnes tout au long de cette procédure quand elle est engagée, voilà.
Alors, est-ce que tout le monde peut venir ? Est-ce que c'est gratuit ? Et là, tu parlais de conseils et d'orientation, et du coup, cet accompagnement, est-ce qu'il a lieu sur un certain temps donné ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de besoin ?
Ouais. Bah oui, on s'adapte en fait, on s'adapte vraiment à la problématique, je dirais, aux besoins des personnes. Hein. Alors là, la plupart du le public qu'on rencontre le plus souvent, bon, c'est des problèmes de rapport locatif. La plupart du temps, ça, c'est plutôt des questions d'impayé de loyer, mais aussi de congés, c'est-à-dire des personnes qui voient leur propriétaire qui souhaite reprendre ou vendre le logement. Voilà, donc
l'accompagnement dans la durée, mais oui. Aussi tout le monde peut venir.
Bah, on s'ajuste, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, ça va pas être trop compliqué, donc on leur dit bah voilà, vous pouvez faire telle et telle démarche, et puis si à un moment donné vous êtes assigné, bah vous revenez nous voir à la permanence, et puis il y a d'autres personnes pour qui ce qu'il y a à mettre en place est assez complexe, assez urgent, donc on voilà, c'est très en fonction des besoins, et puis jusqu'à ce que la situation soit résolue, soit par un maintien, soit par un relogement.
Et donc c'est gratuit.
Et c'est gratuit.
C'est toujours voilà. Bon à savoir.
Et je voudrais vraiment insister sur une chose, c'est voilà, alors la trêve hivernale, comme tu disais, elle n'empêche pas, elle est vraiment destinée aux personnes qui malheureusement sont arrivées au bout de la procédure et où le concours de la force publique a été accordé. Pour autant, ça n'empêche pas que pendant ce temps-là, ben les procédures peuvent quand même être engagées, soit se poursuivre. Et vraiment, j'ai envie de dire, mais cette période de trêve hivernale de 5 mois, elle est vraiment l'occasion de pouvoir mettre en place des choses. Enfin, vraiment, faut voilà le mettre à profit parce que c'est voilà, c'est une période où on peut mettre en place des choses et vraiment éviter la perte du logement.
Du coup, quelles sont les informations les plus importantes à retenir si on craint une expulsion ?
Si on craint une expulsion, ben, c'est de se renseigner quand même, parce que souvent, enfin, un peu par expérience, les personnes dès qu'elles reçoivent un acte d'huissier ou même si la procédure est pas engagée, ben, les gens ont peur souvent et puis se disent à tous les stades, ça y est, je vais être expulsé. Je dirais que le mieux, c'est toujours en prévention. C'est-à-dire que si on se retrouve dans un logement et que tout d'un coup, ben, pour une raison ou pour une autre, hein, il devient trop cher, on n'arrive plus à régler le loyer, etc., c'est déjà dès ce moment-là. Enfin, plus c'est en amont, de toute façon, plus on peut trouver des solutions et éviter voilà, l'endettement locatif, etc. Mais ça peut être, enfin voilà, ça peut être de faire le point sur la situation, comme disait la dame. Ben, y a des moments, oui, le loyer est trop cher, on peut pas le payer en intégralité. Ben, c'est au moins définir avec les gens, dire ben, voilà, vous donnez au moins un peu 30%, mais pas ne rien payer non plus. Enfin, tout ça dans une dans une projection pour la suite, c'est-à-dire de si malheureusement on est assigné parce qu'on n'a pas trouvé une solution entre-temps, enfin de pouvoir dire au juge voilà, en tout je suis quand même de bonne foi, j'ai quand même un peu réglé, enfin voilà.
Et donc être assigné en justice dans le cadre de résiliation de bail ou pour une expulsion locative, c'est pas une fatalité, ça ne conduit pas toujours à une procédure d'expulsion.
Alors, ça fait partie de la procédure hein, d'être assigné. C'est-à-dire, seul le juge peut prononcer la résiliation du bail et l'expulsion. Néanmoins, selon la situation, il peut accorder des délais. Ça existe. Voilà, ça peut être sur 36 mois. Donc, d'où le conseil, parce que les audiences en résiliation de bail, c'est vraiment un contentieux de masse. Et malheureusement, les audiences, elles durent très, très peu de temps. C'est... voilà, c'est moins de 10 minutes. Et donc, il faut arriver avec quelque chose de construit, etc. Et il est toujours possible de faire une proposition, et si c'est tenable, elle peut être acceptée, d'un échelonnement de la dette, et donc d'éviter la résiliation du bail, et que l'expulsion soit prononcée.
Ok, donc ce qu'on retient, c'est ne restez pas seul. Mmh. Il n'y a pas de honte à ne pas pouvoir payer son loyer.
Exactement.
Et il faut choisir de la trêve hivernale.
Moi, j'avais une petite question parce qu'on sait que Lyon, là, il y a une tension locative extrême et que le logement social est particulièrement impacté. On sait aussi que les promesses de Renaud Père quant à la construction de logements sociaux neufs sont pas du tout, qu'il a pas du tout tenu ses promesses, que la tension est extrême. Est-ce que vous, au Permanence Appel ou à l'Alpil en général, vous constatez ça sur les usagers et comment c'est géré, quoi?
ça c'est clair qu'on constate un rallongement clairement hein, des délais d'accès au logement social. Mais j'ai peut-être un peu envie de rebondir en disant que même en matière d'expulsion locative, il y a peu de personnes qui pour lesquelles à un moment donné le bail est résilié et en fait qui peuvent instruire un recours d'allô, faire valoir le droit au logement opposable au titre de la menace d'expulsion. Et ça c'est important parce que c'est le droit au logement opposable. Donc on doit quand les personnes sont reconnues prioritaires, on doit les reloger dans un délai réglementaire de 6 mois. Et en plus de ça, ça constitue une protection à l'expulsion. Enfin voilà, il y a quand même une circulaire qui est appliquée, qui s'applique quand même dans le Rhône, qui dit que toute personne menacée d'expulsion, qui est reconnue prioritaire d'allô, ne peut pas être expulsée tant qu'elle n'est pas relogée. Donc c'est vraiment une protection. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui instruisent des recours d'allô au titre de la menace d'expulsion.
Est-ce que tu peux rappeler, c'est le jeudi matin et le vendredi matin?
Alors c'est sur, vous pouvez tout trouver sur, alors soit la maison de l'habitat aussi, qui a un accueil inconditionnel sur l'ensemble des problématiques logement, mais du coup, vous pouvez retrouver sur le site de l'Alpil les permanences. Donc c'est le jeudi matin à Villeurbanne de 9h30 à 11h30 et le vendredi matin au tribunal judiciaire de Lyon, 9h30 à 11h30. Voilà, et elles ont lieu, y compris pendant la trêve hivernale, évidemment.
Merci. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On arrive à la fin de notre émission, mais on a encore une petite brève au local.
Juste pour finir
avec le micro, c'est toujours mieux.
Pour finir ce petit dossier sur le logement et la trêve hivernale, une petite brève qui nous vient de Paris, où il y a eu une occupation de l'hôtel de ville par l'ambassade des immigrés et le collectif La Chapelle Debout. Donc depuis avril 2022, il y a 93 réfugiés et demandeurs d'asile qui occupaient un immeuble à Paris, qui occupent un immeuble à Paris 9e, immeuble vide depuis des années appartenant à la Société Régionale, à la Société Générale bien sûr, qui a été réquisitionné par le collectif La Chapelle Debout et qui s'appelle donc l'Ambassade des Immigrés. Cet immeuble est expulsable depuis le 20 septembre et après avoir occupé le centre d'accueil des Ukrainiens de la Porte de Versailles, entamé des négociations avec la préfecture, l'ambassade des immigrés a ensuite occupé la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le 27 septembre. Et la semaine dernière, vendredi dernier, 7 octobre, c'était l'occupation de l'hôtel de ville de Paris pendant 3 heures. Et ils ont obtenu quelques engagements à des rendez-vous avec les services de la mairie, avec la préfecture de région pour l'hébergement et le logement et la préfecture de police pour les papiers. Et donc je vous lis la fin du communiqué de l'ambassade des immigrés contre la dématérialisation de vos démarches et de vos papiers, contre la CAF qui fait attendre, contre les rendez-vous payants à la préfecture après 2 ans et les demandes de logement social en suspens. Un conseil pratique, occupez vos lieux de pouvoir, il y fait bon vivre, les locaux sont spacieux et le personnel charmant.
Ça donne envie.
Et on a le temps de terminer cette émission avec un agenda.
Et oui, on vous a parlé de grèves passées ou présentes, mais on vous invite aussi à faire des choses dans les jours qui viennent. Alors, par exemple, mercredi, c'est des choses un peu plus intellectuelles, mercredi à 18h, vous pouvez vous rendre à la librairie La Plus Noire 8 rue Diderot. Pourquoi ? Pour rencontrer Olivier Marbeuf et Oulimata Gueye autour de l'ouvrage Suite décoloniale. Je vais vous lire un petit résumé du livre. Ça dit « Alors que la fête de la fin du monde semble ne plus vouloir finir, qu'on suit déjà à grosses gouttes au bal des courtisanes, une poussée de fièvre décoloniale s'empare des scènes de l'art et de la culture. La France est en péril. Par voie de presse, les conservateurs réagissent à la menace indigène dans la dignité et la mesure qu'on leur connaît. Les plus courageuses des institutions publiques et des fondations du capitalisme finissant allument de leur côté des splendides contre-feux de fausses radicalités. On hurle au loup et on jette sur la scène des héros noirs délicatement choisis. Empire aime les diversions comme il aime les spectacles. Le vieux monde doit mourir, mais de la seule façon qu'il a choisi. Voilà, c'est aussi énigmatique que peut-être ça vous donne envie d'y aller. Donc, pour parler de Suite décoloniale, mercredi à 18h à la librairie La Plume Noire sur les Pentes. Là, on passe à jeudi, c'est à 18h30, c'est au café Le Simone, c'est à Perrache, 45 rue Vaubecourt. C'est l'AG de Terre d'Ancrage. Tout autour de nous, les étrangers et étrangères venus chercher une vie meilleure au péril de leur vie, sans logement, dans une misère indigne, sans droit de travail légal, pourchassés par la police. Que faisons-nous ? Sommes-nous condamnés à l'indifférence ? Vous avez bien entendu pendant une heure que non. Mais vous pouvez aussi aller à l'AG de Terre d'Ancrage. Mon Dieu, je lis ce papier beaucoup trop vite, mais ça va être génial. c'est à 18h30 au café Le Simone, 45 rue Vaubecourt. Ça continue. Alors, il y a des manifs à Paris, mais bon, on va passer parce qu'on va pas forcément prendre le train. On rappelle qu'il y a une grève à Perrache.
Néanmoins, c'est pas une grève du train, mais ça empêche pas nécessairement.
Mais ce sera pas propre à côté du train.
Donc, si vous allez à Perrache, évidemment, ce n'est pas pour prendre le train, mais c'est pour aller soutenir le piquet de grève des salariés du nettoyage de la société Arc-en-Ciel.
Et oui, pour finir cet agenda décousu, vous pouvez aller soutenir aussi dès demain, les grévistes des raffineries de Fézin. C'est à partir de midi, vous les trouverez 8 avenue Jean Jaurès à Fézin, bien sûr. Et samedi prochain, de 10h à midi, le CSP 69 organise, comme tous les premiers et troisièmes samedis du mois, leur réunion et permanence juridique. Ce samedi, c'est un atelier juridique sur le thème de la régularisation par le travail. Vous les trouverez en rue d'essai dans le 3e. Et puis voilà, vous avez bien sûr noté toutes les permanences auxquelles vous pouvez aller le mercredi après-midi, le DAL, et retrouver les permanences appels le jeudi matin, le vendredi matin. Comme par exemple, vous trouverez la brigade des fauchés à la Lutine lundi prochain. Là, c'est plus pour les droits vis-à-vis des aides sociales.
Et puis c'est fini pour ce soir.
Ce numéro 1 du Canu Info en mixité choisie sur Mexis.
Un bis, ouais.
L'autre, c'était le numéro 0.
Donc lundi prochain, vous retrouvez le Canu Info régulier. Et nous, on se retrouve dans un mois, le deuxième lundi du mois de novembre.
Le 14.
Canus Info.
Tous les deuxièmes lundis du mois, le Canu Info s'organise en mixité choisie, sans mexis, pour parler de l'actualité
avec un regard féministe.
Quoi ? On n'a pas le droit d'y aller, ouin ouin, mais c'est du racisme, c'est de la discrimination de l'homme blanc qui pourtant souffre au quotidien.
Sur Radio Canu,
102.2,
la plus rebelle des radios.
Non.
Les plus rebelles de la radio.